Nous nous retrouvons pour les mots de la foi en poursuivant la lecture de l'encyclique du pape François, Loué sois-tu. Nous en étions aux questions concernant l'anthropocentrisme dont le pape disait qu'il est dévié, il a été marqué par la technique qui se place au-dessus de la réalité, ce qui entraîne un certain nombre de difficultés. Et nous en sommes au numéro 120. Le pape nous dit « difficulté qu'il faut surmonter en reprenant peut-être un chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles de notre entourage parce que cette mise en exergue de la technique aboutit à éliminer les plus faibles. » Alors, qu'en est-il ?
Alors, le pape rappelle que ce chemin éducatif n'est pas possible si on ne protège pas l'embryon humain, même si sa venue cause de la gêne et des difficultés.
Alors, c'est pas l'embryon pour l'embryon. Bien sûr, l'embryon doit être défendu, c'est la vie. Mais il pose la question aussi de quelque chose de beaucoup plus important au-delà de l'embryon et qui se détermine par l'embryon, c'est tout ce qui concerne la vie sociale. Parlons-en
oui,
un peu.
Parce que si on n'est pas capable d'accueillir une nouvelle vie, toutes les formes d'accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. Et le christianisme s'exprime dans le dialogue avec de nouvelles situations historiques et doit prendre en compte ces modifications techniques dans cet accueil de tous.
Voilà, l'accueil de tous. Et il pose la question du relativisme pratique. Maintenant, on ne va tenir compte que de ce qui est utile. Donc, lorsqu'il évoque la vie sociale, ben, que va-t-on faire pour accueillir les vieux, les malades, les handicapés, les pauvres ? Alors, vous pouvez dire, ben, oui, mais moi, je suis ni vieux ni malade. Oui, mais un jour, ça va arriver. Le handicap, qui ne sera pas un jour handicapé ? Les pauvres. Bref, le pape pose cette question de façon très, très pointue.
Oui, il dit, si on laisse les forces du marché réguler l'économie, les impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. Et cette logique relativiste qui justifie l'achat d'organes des pauvres dans le but de les vendre, le rejet d'enfants parce qu'ils ne correspondent pas aux désirs des parents, c'est la même logique qui engendre les résidus, les déchets, etc.
Alors le pape ne craint pas d'entrer dans le détail, hein. Le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés, les peaux d'animaux en voie d'extinction, on pourrait ajouter bien tout ce qui concerne l'ivoire. Bref, lorsque on abandonne l'intérêt collectif, eh bien, on oublie effectivement tout ce qui ne sert pas à l'intérêt personnel et laissé de côté. Alors, on pouvait s'imaginer, mais il y a la loi qui protège. Et aujourd'hui, on perçoit qu'il y a même des dérives qui concernent la loi.
Oui, parce que la loi apparaît plus comme un obstacle à contourner. S'il n'y a pas une culture et une morale qui indiquent des vérités et des principes universels, les lois apparaissent uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner, dit le pape. Puisque même on est capable de contourner, par exemple, les lois fiscales, etc.
Alors les lois fiscales, mais aussi les lois environnementales, par exemple, vous-même, si vous allez au bord de la mer pour prendre du sable sur la plage, on vous l'interdit. Mais un petit peu au large, une dragueuse, eh bien, on va expliquer que c'est utile pour la construction. Donc la dragueuse, elle va absorber le sable, aller le vendre, mais là, ça sert un commerce, et on va vous dire, mais c'est indispensable. Mais peut-être que là où on interdisait de prendre un seau de sable au particulier, lorsque ce sont des tonnes qui sont puisées jour après jour, il est bien évident que la côte, elle souffre. Et puis, après, elle se déplace. Et puis, après, les digues naturelles s'effondrent. Donc là, on voit comment la loi est, dans certains cas, contournée avec quelques arrangements. Donc, on voit bien que le pape entre dans des affaires très précises sur lesquelles il est bon de réfléchir. Aussi, dans d'autres perspectives, la nécessité de préserver le travail. Alors, d'abord, en définissant le travail.
Le travail, et il le relie au récit biblique de la création, Dieu a placé l'être humain dans le jardin, non seulement pour préserver ce qui existe, mais pour le travailler, de manière à ce qu'il porte du fruit. Donc, les ouvriers, les artisans, nous dit la Bible, assurent une création éternelle.
Alors, c'est vrai aussi que ce n'est pas simplement les ouvriers et les artisans, dans le sens moyenâgeux du terme, mais pour le pape, toute activité qui transforme, c'est du travail. Et aussi tout ce qui établit des relations entre l'être humain et les choses. Donc, quelque chose de très vaste. N'importe quelle forme de travail nous fait participer à la créativité, à l'action de Dieu créateur. Alors, il passe aussi par la tradition du monachisme qui a réhabilité le travail, puisque pendant longtemps, le travail s'était réservé aux esclaves dans nos sociétés.
Oui, et c'est la règle de Saint Benoît qui a remis en valeur le travail en alliant la prière et la lecture au travail manuel. Les deux bases de cette règle, c'est prix et travail. Donc, ça remonte au Moyen-Âge assez lointain, Saint Benoît. On a appris à chercher la maturation et la sanctification dans la compénétration du recueillement et du travail.
Et de ce fait, c'est l'homme qui est le centre de toute la vie économique et sociale, donc, et ça c'est dans Gaudium et Spes, donc dans les textes du Concile, mais ça a des fondements bibliques, on vient de le voir, ou des fondements traditionnels, on vient de le voir aussi dans cette tradition monacale. Et c'est l'homme, l'être humain, qui est capable, et là on reprend une citation de Jean-Paul II, d'être lui-même l'agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral, de son épanouissement spirituel. Et c'est là que se situe le travail, donc un lieu de développement de l'homme.
Oui, et le pape continue en disant, dans le travail, ça devrait être un lieu de développement personnel, qui permet de développer la créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication, une attitude d'adoration.
C'est intéressant, oui. Cette perspective. Oui. Et de ce fait, le travail est pour tous. On doit se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail pour tous. Accès au travail pour tous. On ne doit pas chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le travail humain, car l'humanité se dégraderait.
Oui, le travail est une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre. C'est un chemin de développement humain, de réalisation personnelle.
Alors là, il prend l'exemple aussi de ceux qui sont exclus du travail, des pauvres. Et il dit, mais leur donner de l'argent, certes, mais surtout leur donner du travail.
Mais il précise que l'orientation actuelle de l'économie a favorisé une sorte d'avancée technologique qui permet de réduire les coûts de production, mais cette réduction, elle passe par la diminution des postes de travail, remplacés par des machines, et c'est une illustration de plus de la façon dont l'action de l'être humain peut se retourner contre lui-même.
Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que les machines ne doivent pas aider au travail. À la limite, c'est bien lorsque les machines facilitent le travail de l'homme, mais qu'on a toujours comme finalité la place de l'homme et non pas le coût financier de son travail.
Oui, les coûts humains sont aussi des coûts économiques, les dysfonctionnements économiques entraînent toujours des coûts humains.
Alors là, on peut réfléchir aussi sur la formation, puisque c'est vrai aussi que maintenant, on voit dans ce débat sur la formation, entre ceux qui disent, eh bien, on va former les personnes pour qu'elles puissent ensuite choisir, être créatives, etc. Certains disent, non, non, il faut former immédiatement pour faire tel travail. Et là, on retrouve cette question du profit immédiat et au contraire, de la visée à long terme. Et le pape est très précis. Cesser d'investir dans les personnes pour obtenir plus de profits immédiats est une très mauvaise affaire pour la société. Il se rend bien compte de notre situation, une augmentation de la population, des machines et des robots qui prennent une partie du travail en charge. Donc, comment donner du travail à tous ?
Alors, il rappelle qu'il y a une grande variété de systèmes alimentaires de ruraux de petite dimension qui alimentent une grande partie de la population mondiale, qui utilisent peu de terre, peu d'eau, produisent peu de déchets, mais que ces petits systèmes sont menacés par les économies d'échelle.
Et donc là, il invite à une réflexion globale là-dessus. Les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des mesures de soutien claires et fermes aux petits producteurs et à la variété de la production. Là aussi, et c'est un élément très important de notre époque. Par exemple, à l'issue de la COP21, on voit qu'on privilégie déjà des systèmes de smart agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire, une agriculture élégante? Alors qu'il y a des petits paysans qui sont beaucoup plus efficaces. Donc là aussi, à nous de faire attention, puisque ce qui est présenté comme une finalité et comme un bien, en fait, est un objectif qui favorise les intérêts des grandes compagnies alimentaires ou productrices. Donc, le pape rappelle que pour qu'il y ait une liberté économique dont tous puissent effectivement bénéficier, il faut parfois mettre des limites à ceux qui ont le plus de moyens et de pouvoir financier. Il ne s'agit pas de limiter seulement les possibilités financières, mais d'orienter ces possibilités financières vers les bons investissements et non pas vers les investissements qui soient uniquement rentables en termes de plantation. Donc on va faire des plantations efficaces en laissant des terres inoccupées alors que beaucoup d'hommes ont besoin de terres pour pouvoir cultiver, pour vivre, par exemple. Et il rappelle que l'activité d'entreprise est une vocation noble, orientée à produire de la richesse et à améliorer le monde pour tous. Et il propose à cet égard des choses tout à fait intéressantes. Le bien pour tous doit être le fruit de la réflexion pour tous, et notamment une manière très féconde de promouvoir la région où on installe les projets. La création de postes de travail est une partie incontournable du service du bien commun. Donc là, il défend un système dans lequel les locaux ont des mots à dire sur les choix qui sont faits. Eh bien, sur cette réflexion, on vous propose de retrouver les pages originales. C'est au numéro 120 à 129 de l'encyclique « Loué sois-tu ». Et on vous dit à la semaine prochaine.